Voilà. Alors, pour ce matin, on va faire plusieurs lectures bibliques. Alors, des fois, on va ouvrir nos Bibles. Des fois, je vous lirai les versets parce que j'en ai trois pour que chaque fois on feuillette nos Bibles. Hein. Mais par moment, on va s'arrêter un peu plus longtemps sur des passages, donc on pourra ouvrir nos Bibles. Et là, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Zacharie 4, les versets 1 à 14 que je vais lire. Donc, tout le chapitre 4 de Zacharie. Et ce matin, nous allons un peu parler de Jérusalem. De Jérusalem, de la Jérusalem actuelle, de la Jérusalem céleste. Puis on abordera, mais à peine, de ce que Jérusalem fera aussi, de ce que le Seigneur fera pour Jérusalem dans la suite des temps. Donc je commence donc en Zacharie 4, verset 1. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant sept lampes avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. » Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole de l'Éternel que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » « Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel ? Tu seras aplani. Il déposera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Je pris la parole et je lui dis, « Que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, « Que signifient les deux rameaux d'oliviers qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or ?» Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce qu'il signifie ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il dit, « Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Dans ce chapitre, le verset qui nous est peut-être le plus connu, c'est le verset 6, la deuxième partie du verset 6. « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, « Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Hein, ce verset, on le connaît, on l'a moult fois entendu. Et c'est vrai que ce matin, le Seigneur nous rappelle aussi que ce n'est pas par la force que son royaume viendra, ce n'est pas par la puissance militaire, ce n'est pas par le pouvoir politique, ce n'est pas par la volonté humaine que Dieu accomplira son œuvre ici sur cette terre. Tout n'est que grâce divine et action de son esprit en nous. Jésus lui-même n'a pas agi par ses propres forces. Il n'a pas cherché à se lever un parti politique ou à se lever une armée afin d'aller conquérir Rome. Hein? Non, simplement, alors qu'il était le roi des rois et le seigneur des seigneurs, il a attendu l'heure où le Saint-Esprit est venu le baptiser afin qu'il puisse accomplir la volonté du Père. Et aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. On n'est pas appelé à lever une armée et à les délivrer, je ne sais pas quel pays, hein, parce qu'on aurait du boulot là, je pense qu'on peut les délivrer un peu partout, hein, et à se lancer dans des grands défis, à espérer à une révolution chrétienne de partout la terre. Non, ce que nous devons attendre, c'est simplement l'œuvre du Saint-Esprit en chacun d'entre nous. Simplement demander à ce que le Seigneur nous baptise, nous renouvelle au travers de son esprit, afin que nous puissions être les témoins du Père, afin que nous puissions accomplir la volonté du Père, afin que le Seigneur œuvre encore aujourd'hui au travers de nous. Amen. Et c'est des fois des choses toutes simples. Ce n'est pas forcément des grandes choses, mais c'est se tenir disponible devant le Seigneur, prier, continuer à prier. Bientôt, on va reproposer un temps de jeûne, hein, ce sera pour mi-février. Voilà, un temps de jeûne pour l'Église, aussi pour que la manifestation de Dieu puisse être visible aussi au milieu de nous. On attend à ce que le Seigneur agisse encore. On veut encore se consacrer pour l'œuvre de notre Dieu. Zacharie 4, verset 10. « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Ne méprisons pas le jour des faibles commencements. Et rappelons-nous que le Seigneur, pour cette année 2019, va mettre devant nous des choses peut-être toutes simples, mais c'est là où il nous attend. Et c'est ces choses peut-être toutes simples qui, en fait, porteront du fruit éternel, un fruit glorieux. Alléluia! Et c'est vrai qu'on ne va pas forcément chercher à vivre des choses tellement extraordinaires, tellement grandes et tout. Non, simplement se mettre disponible devant le Seigneur, écouter et oser le servir avec la force qu'il nous donne. Hein, il n'y a pas parmi nous des champions que je sache. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, un champion olympique dans la salle? Ouf, hein, heureusement qu'il n'y en a pas un, parce que j'étais mal barré là. Le Seigneur bénit les champions olympiques. Hein. Mais il n'y a pas parmi nous de champions olympiques. Par contre, il y a parmi nous des gens qui ont fléchi le genou devant le Seigneur. Alléluia. Qui ont reconnu qu'ils ont besoin pour leur existence et pour porter du fruit, de simplement remettre leur vie entre les mains de Jésus. Et voilà, nous sommes appelés à être des disciples du Seigneur et il en sera encore de même pour 2019. Zacharie 4, je relis le verset 2 et 3. Donc, l'ange dit à Zacharie, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. » Qui sont ces deux oliviers qui se tiennent l'un à droite et l'autre à gauche du chandelier ? C'est ce qu'on va voir. Mais déjà, simplement, le chandelier, c'est quoi? C'est la menorah. Hein? Il y a une représentation là, hein, si jamais. Hein? Un chandelier à sept branches. Pourquoi sept branches? Les sept branches, en fait, correspondent aux sept onctions du Saint-Esprit qui nous sont décrites dans Ésaïe 11. Je vous fais le résumé. Hein? Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel et esprit de discernement. Voilà, ça c'est les sept onctions du Saint-Esprit. Le chandelier à sept branches est une représentation parmi d'autres hein, de l'onction du Saint-Esprit. Et les deux témoins qui se trouvent l'un à droite et l'autre à gauche, qui sont-ils? En fait, c'est simplement Josué, le sacrificateur de l'époque, et Zorobabel, qui était le gouverneur de Juda de l'époque. Donc, ces deux hommes avaient chacun une fonction. Un était sacrificateur, l'autre était gouverneur. Donc, un avait une fonction sacerdotale et l'autre avait une fonction royale. Il nous est parlé dans un autre texte aussi de deux oliviers. Et ce texte se trouve dans l'Apocalypse de Jean que nous allons lire. Alors, au début de cette prédication, je fais un peu des lectures longues, mais après, ce sera plus court. Hein. Courage, mes frères, courage. Apocalypse 11, je vais lire les versets 1 à 14, où il nous est parlé aussi de deux oliviers qui se tiennent devant la présence du Seigneur. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il était donné aux nations. Et elles fouleront au pied de la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Mais quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. Alors il nous est parlé de plusieurs choses dans ce texte, on va regarder un petit peu en détail. En premier, il nous est parlé d'un temple. Jean peut mesurer un temple avec des parvis. Et ce temple, en fait, peut-être, ça c'est une interprétation, mais ce temple peut-être est le futur temple que certaines personnes ont le projet de reconstruire à Jérusalem. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le bulletin de notre église de ce mois. Je fais un petit clin d'œil à Pierre. Merci parce qu'il nous a pris des textes par rapport au temps de la fin. Et puis, c'était indiqué. Aujourd'hui, c'est vrai que des fois, dans l'église, on n'a plus tellement envie d'entendre ces choses-là. On n'a plus tellement envie d'être averti sur ces choses-là. Et j'écoutais dernièrement une émission radio française où un théologien évangélique était interviewé. Donc, c'était une radio chrétienne. Et il disait que dans le milieu évangélique en France, plus de la moitié des évangéliques ne sont plus dans l'attente d'un retour proche du Seigneur. Plus de la moitié, aujourd'hui. Ils croient en un retour du Seigneur, mais c'est pour un temps lointain. Et puis après, quand on écoute un peu leur théologie de ces gens-là, certains pensent même qu'un jour, tous les gouvernements de la terre vont devenir chrétiens et que grâce à ça, la terre va rentrer dans une ère nouvelle. Alors, c'est des gens en général quand même très positifs par rapport à ce qui se passe sur cette terre. Ils pensent que voilà, le christianisme va impacter toutes les sphères de la société, qu'on va entrer dans un temps nouveau qui sera vraiment béni et qu'on peut se réjouir par rapport à ça parce que le Seigneur va nous faire prospérer dans toutes les directions et qu'on sera source de grandes bénédictions pour une multitude. Je veux dire, c'est des prédications très enflammées et puis c'est tentant de se laisser entraîner dans ce courant. Mais c'est complètement hors réalité et c'est vraiment mal fondé sur les Écritures. Alors, il y a quand même aujourd'hui en France, dans le milieu évangélique, plus de la moitié des gens qui ne sont plus dans une attente proche du Seigneur. Mais de toute façon, si on est dans une attente proche du Seigneur, on est fondé sur les Écritures parce que les premiers disciples, ils étaient dans cette attente-là. Les premiers chrétiens, ils étaient dans cette attente-là. La Bible, elle finit avec une prière, « Maranatha, viens Seigneur, viens ». C'est l'attente de tous les chrétiens. Et nous, aujourd'hui, nous devons aussi être dans cette attente sans espérer amener une complète transformation des nations de toute la terre. Ça, je crois, alors honnêtement, moi, je dis ça, c'est une utopie complète. Il nous est parlé ici d'un temple. Et je ne sais pas si j'en ai parlé à 2-3 personnes ici dans l'église, Mais je ne sais pas si vous êtes au courant qu'à Jérusalem, début décembre, à savoir qu'à Jérusalem, actuellement, il y a déjà un souverain sacrificateur. À savoir qu'à Jérusalem, déjà aujourd'hui, on recommence à faire des sacrifices. On refait des sacrifices d'animaux aujourd'hui à Jérusalem. C'est des gens qui sont pleins de bonne intention, hein, je ne juge pas ces personnes-là. C'est des personnes qui font ça avec un cœur sincère, pensant que, voilà, en tant que juifs, ils doivent recommencer à faire des sacrifices. Et là, ils ont fait un sacrifice début décembre dans le but de, en fait, dans le but de la construction du troisième temple. Hein. C'est un sacrifice de consécration pour le troisième temple à venir. Et peut-être vous ne savez pas, mais à Jérusalem, aujourd'hui, et vous pouvez le visiter si vous voulez, si vous allez à Jérusalem, je pense que c'est facile de visiter ce lieu-là, ils ont déjà reformé une salle souterraine qui est attenante au mur des Lamentations, hein, c'est souterrain, où il y a en fait une salle pour faire un Sanhédrin avec 70 juges, et 70 places donc, et 24 places pour les anciens. Hein, ça, c'est une salle qui a été construite aujourd'hui, qui est fonctionnelle. Il y a plusieurs salles dans cet endroit. C'est souterrain, c'est sous le mur des Lamentations, en fait. Il y a une salle où ils peuvent faire les rituels de purification avec l'eau. Voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 20 ans, ce n'est pas dans 30 ans. Il y a des gens, des juifs sincères, moi je ne les juge pas, hein, sincères, qui remettent en route toute la prêtrise, qui vont remettre en route aussi un jour, parce qu'ils travaillent dans ce sens-là, le temple à Jérusalem, et qui voient en Trump le Cyrus des temps modernes, hein, puisque Trump a reconnu plus ou moins Jérusalem comme la capitale d'Israël. Donc voilà, hein, il y a vraiment quelque part un temps spirituel particulier qui est en train de se vivre sur Jérusalem, et nous devons aussi porter nos regards sur ces choses-là, pas pour juger, hein, pas pour dire « oh là là, oh là là », non, mais quand même pour prendre conscience que les choses avancent. Parce qu'en effet, dans la Bible, on a quand même des passages où on peut se dire « mais oui, il y aura la reconstruction d'un troisième temple ». Peut-être qu'on se trompe complètement dans l'interprétation de ces choses-là, mais ici, dans Apocalypse 11, il nous est parlé d'un temple qui sera un temps foulé par les nations. Et que de ce temps-là, il y aura deux témoins. Et ces deux témoins sont deux oliviers. Et ces deux oliviers, comme le texte de Zacharie, il y en a un qui était roi, il y en a un qui était sacrificateur, ces deux témoins, en fait, auront aussi cette fonction-là. Ils auront le sacerdoce royal. Ce seront quoi? Ce seront simplement des chrétiens, mais des chrétiens avec un fort témoignage pour la gloire du Seigneur, parce que nous sommes un sacerdoce royal. Nous avons cette fonction, comme les deux oliviers qui étaient décrits quelque part aussi en Zacharie, nous avons cette fonction royale, et ces deux témoins seront simplement des grands prophètes devant le Seigneur, qui, dans les temps de la fin, parleront du retour du Seigneur et parleront des choses que Dieu, je pense, déposera sur leur cœur. Et si on continue dans ce texte de Apocalypse 11, il nous est parlé de Jérusalem. C'est une prophétie ici sur la Jérusalem des temps de la fin. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément une prophétie très positive. Hein. Si je lis donc la deuxième partie du verset 8, « qui est appelé dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. » Où est-ce que le Seigneur a été crucifié? À Jérusalem. Et comment est-ce que le Seigneur appelle Jérusalem, cette ville sainte? Pour les temps de la fin, il l'appelle Sodome et Égypte. Donc, il appelle cette ville comme étant dans l'immoralité et dans l'idolâtrie. C'est fort, hein? Mais ça, c'est un texte prophétique et c'est ce que déclare la parole du Seigneur sur la ville de Jérusalem. Et aujourd'hui, des fois que tu en entends des choses dans les milieux évangéliques sur Jérusalem, sur Israël, on est toujours assez dans un discours quand même assez positif, assez angélique. Hein, on a un regard qui, quelque part, des fois, a remplacé, on est dans une tradition qui, quelque part, des fois, a remplacé la parole de Dieu. Parce que Dieu, des fois, il voit les choses, et même des fois nos vies aussi, il les voit peut-être d'un regard différent. Hein, des fois, on est touché parce que d'un coup, on réalise que, oula, moi, ma consécration, ça ne va pas. Je croyais que j'étais en ordre devant Dieu, mais je suis dans le péché. Et là, Dieu dit par rapport à Jérusalem, clairement, que la ville est dans le péché. Elle est dans l'immoralité et dans l'idolâtrie. Tout homme est pécheur. Et aujourd'hui, on doit le déclarer encore. Tout homme est pécheur. Nous, ici, en Suisse, on n'est pas mieux. Je veux dire, à Berne, on n'est pas mieux que Jérusalem. Hein. Jérusalem, on peut. Je veux dire, à Berne, on n'est pas au-dessus. Notre capitale vit aussi dans l'immoralité et dans l'idolâtrie. Je pense qu'il n'y aura pas besoin d'avoir des yeux avec une vue très fine pour réaliser ça. Il y a un frère qui travaille à Berne. Je ne sais pas si tu peux confirmer. Est-ce que Berne vit dans la sainteté et la crainte du Seigneur? Hein? Non? Bon, d'accord, zut. C'est un constat, mais c'est quand même un constat du Seigneur. Et il est bon des fois de revenir à la parole de Dieu pour ne pas laisser un regard simplement un peu trop angélique sur une situation actuelle, sur ce que dit Dieu par rapport à son propre peuple, parce que c'est le Seigneur qui a le droit de le juger. Mais ça ne veut pas dire qu'il va laisser les choses ainsi. Ça ne veut pas dire qu'il va laisser en Jérusalem régner l'idolâtrie et l'immoralité. Bien au contraire, Dieu a des grands projets encore pour son peuple. Amen. Donc, tout peuple a besoin du salut en Jésus-Christ. Hein, c'est ça. C'est ça aussi le rappel de ce matin. C'est se rappeler que le peuple juif a besoin aussi de plier le genou, a besoin de repentance, a besoin de revenir au Seigneur. Et Dieu travaille les cœurs, Dieu travaille nos cœurs, mais Dieu est aussi en train de travailler les cœurs des Juifs, qu'ils soient en Israël ou qu'ils soient encore ailleurs sur cette planète. Dieu est encore en train de travailler les cœurs. Regardons un autre texte qui nous parle de la Jérusalem actuelle, et aussi un texte qu'on entend des fois peu dans nos églises, Galates 4, donc ce texte nous vient de l'apôtre Jean. Paul, Galates 4, au verset 24. Je lis le verset 21 déjà. Galates 4, verset 21. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point les deux fils ?» Pardon, n'entendez-vous point la loi, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Amen. Il y a deux Jérusalem ici. Il y en a une qui est esclave, et il y en a une qui est libre, qui est céleste. Il y en a une qui est terrestre, qui est esclave de quoi? Encore du péché. Parce que le seul nom sur cette terre qui a été donné aux hommes pour être libérés du péché, c'est le nom de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tant que Jérusalem restera loin du Messie, elle demeurera esclave du péché. Il en est de même pour chaque nation. Tant que les nations ne viennent pas à Jésus-Christ, tant que les individus ne viennent pas à Jésus-Christ, alors les individus sont esclaves du péché. Qu'ils soient juifs, qu'ils soient de toute autre origine, de toute autre ethnie, tant qu'un individu reste loin du Seigneur, il reste esclave du péché. On va parler un tout petit peu du projet de Dieu pour Jérusalem. Et je vais vous lire quelques passages, peut-être on les lit simplement comme ça. Parce que Paul n'a pas simplement fait cette constatation de dire, voilà, Jérusalem est esclave du péché, regardez, hein, c'en est fini pour elle. Non, Dieu a autre chose. Hein. Et rappelons-nous qu'on n'est pas, on n'est pas meilleur que le peuple juif. Hein. Je ne suis pas en train de me placer au-dessus. Hein. Ça, alors, loin de moi cette pensée. Voilà, c'est ce que dit Romains 9, versets 27 et 28. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Hein? » Quand bien même Israël serait aussi nombreux que le sable de la mer, un seul reste sera sauvé. Dieu a résolu quand même quelque chose, et Dieu a résolu aussi une bénédiction pour ce pays. Mais voilà, ce pays doit fuir l'immoralité et ce pays doit lâcher son idolâtrie. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas et je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Mais au sujet d'Israël, il dit « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Terrible, hein? Mais ce jugement sur Israël, c'est un souvenir aussi, et c'est un rappel pour nous, l'Église, à être dans la crainte de Dieu. Parce que si à un moment, Dieu a jugé Israël, le Seigneur peut aussi juger son Église, hein? Il est le même. Nous devons marcher aussi dans la crainte du Seigneur. Et pour son malheur, en Israël, ou, dans les Juifs, ou parmi les Juifs qui sont dans la diaspora, existe un peuple qui ne sont pas juifs, hein? Et ça c'est la Bible elle-même qui le déclare, là je retourne dans Apocalypse 3, verset 9. Vous verrez, après j'arrive bientôt à la conclusion, puis je vous ferai le lien de tout ce que, je vous ai partagé. Apocalypse 3, verset 9. Apocalypse 3, verset 9 qui dit ceci. « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Il y a des gens parmi les Juifs qui se disent juifs et ne le sont pas. Hein? Ça, c'est l'Apocalypse de Jean. C'est une révélation aussi par rapport au temps que nous vivons aujourd'hui. Il y a des gens qui se disent juifs, mais ne le sont pas. Parce que c'est avantageux aujourd'hui pour certaines personnes de se dire juif. Hein? C'est une couverture quelque part. Mais pour être juif, il n'y a pas 15 000 chemins. Pour être juif, soit tu l'es dans le sang, par le sang, par ton origine ethnique, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas 15 000 chemins. Et puis, il y a des gens qui se convertissent au judaïsme. Bon, ça, c'est leur choix. Mais nous, on sait que la véritable conversion, c'est au travers du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin du salut. Mais il y a des gens qui se convertissent en judaïsme. Mais des fois, c'est vraiment un judaïsme qui est complètement tronqué. Là, j'écoutais un commentaire d'un rabbin juif français qui se vantait qu'il était en relation avec un ancien rabbin mort de longtemps, hein, et qu'il recevait les directives de lui. On appelle ça un culte aux morts, hein, et la parole, elle est claire. On ne doit pas faire de la divination. Il y a des rabbins aujourd'hui qui sont là-dedans, qui sont vraiment dans une forme de judaïsme qui n'a rien à voir avec le judaïsme des Écritures. Hein. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Et je dis que c'est pour le propre malheur du véritable peuple juif, parce que c'est des gens, des fois, qui se comportent tout sauf un juif. C'est des gens qui ont tout sauf la crainte de Dieu, mais qui se donnent juste un peu une étiquette comme ça, et puis qui fonctionnent au gré de leur propre pensée. Romains 11, verset 25. Il nous parle du projet du Seigneur pour son peuple, pour son peuple élu. Romains 11, verset 25. Comme ça, ce matin, on aura fait un petit survol de la pensée de l'apôtre Rome, de la pensée de l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains par rapport au peuple juif. Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Dieu a le projet de sauver son peuple. Et pour l'instant, nous sommes encore dans le temps des nations, mais viendra dans les temps de la fin où beaucoup de gens se convertiront, beaucoup de Juifs se convertiront au Seigneur hein, durant les temps difficiles du règne de l'Antéchrist. Zacharie 12, verset 10. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Hein, » durant les temps difficiles du règne de l'Antéchrist, une grande partie des Juifs vont réaliser qu'ils avaient rejeté le véritable Messie et ils se tourneront vers le Seigneur. Alléluia. Ce sera des temps difficiles en Israël. Zacharie 13, versets 8 et 9, je vous lis. « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom et je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. » Et c'est ainsi que s'accomplira la prophétie que nous venons de lire en Romains 11, versets 26-27. « Ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Viendra un temps de révélation où de nombreux Juifs réaliseront que, en fait, ils ont mis leur confiance non dans le Messie, mais dans l'Antéchrist, hein, dans le faux Messie. Et dans ces temps de tribulation terrible, dans ces temps qui seront vraiment des temps de détresse, alors de nombreux Juifs encore se tourneront vers le Seigneur. Et Dieu sauvera son peuple. Et un jour, il interviendra. En mettant fin à la bataille d'Armageddon, Jésus reposera ses pieds sur le mont des Oliviers et délivrera ce monde du péché. Amen. Alors nous avons vu en Galates 4 qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes non du mont Sinaï en Arabie, mais que nous sommes les enfants de la Jérusalem terrestre, de celle d'en haut. Et que pour ça, on peut se réjouir de cet héritage spirituel que Dieu nous donne aujourd'hui encore. Nous pouvons le servir par la puissance de son esprit, que nous ne sommes pas appelés à rester dans la servitude, mais que nous sommes appelés à vivre dans la liberté. Alors voilà ma conclusion je vais prendre un petit peu de temps pour simplement rebien mettre les choses ensemble de ce que nous venons de partager au travers de ces différents passages bibliques. Alors, pourquoi la lecture de tous ces textes? Simplement pour qu'on puisse faire la différence entre la Jérusalem actuelle, voir ce que Dieu dit aujourd'hui de la Jérusalem actuelle. Hein, ne soyons pas trop angéliques, elle est pécheresse, comme chaque peuple sur cette terre est pécheresse. Hein, vous avez peut-être vu, mais voilà, des rencontres d'homosexuels, les gay prides, ça se fait aussi en Israël. Hein. C'est pas parce qu'on est sur une terre entre guillemets sainte que ces choses ne se font pas. Ce pays vit dans le péché comme les autres nations de la terre. Ce pays a besoin de la délivrance et de la révélation de Jésus-Christ. Donc il y a une différence entre la Jérusalem actuelle, celle qui est céleste. Nous pouvons déjà participer par l'Esprit du Seigneur, à cette dimension-là, à cette ville-là. Nous avons été rachetés à grand prix, afin qu'aujourd'hui, on puisse marcher en nouveauté de vie, et que cette nouveauté de vie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance qu'on va amener un changement sur cette terre. Ce n'est pas par une armée, ce n'est pas en faisant une révolution chrétienne dans cette société que tout à coup, comme par enchantement, tout sera transformé. Non, c'est simplement en se mettant disponible devant le Seigneur pour le servir dans les tâches qu'il nous demande. Et il va nous demander des tâches. Un serviteur, il est appelé à servir. Amen. Hein? Dieu ne va pas nous laisser les bras croisés en attendant le retour de son Fils. Non, Dieu va nous mettre encore en action. Et rempli par la puissance de son Esprit, on va encore voir des choses. On va encore voir des baptêmes, on va voir encore des délivrances. Dieu va nous parler, Dieu va nous donner des prophéties. Dieu va se révéler encore au travers de sa parole. Dieu va renouveler nos forces pour qu'on puisse repartir au combat. Amen. Hein? Petit troupeau, n'ayez crainte, parce que le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est notre héritage et on veut faire avancer ce royaume-là, mais pas selon la pensée de l'homme qui veut la gloire, mais selon la pensée du Seigneur et dans l'attente de ce qu'un jour, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs puissent véritablement accomplir ce royaume sur cette terre. Amen. Rappelons-nous que le royaume des cieux est comparé par Jésus-Christ, comme dans Matthieu 13, à la plus petite de toutes les semences, celle d'un grain de moutarde, celle qu'on, si elle est comme ça posée sur le sol, on la voit à peine, hein, tellement qu'elle est petite. Et pourtant, une fois qu'elle est semée dans le cœur des hommes, elle peut devenir, dans le potager céleste, l'arbuste qui donnera le plus de récolte. Alléluia. Hein? Mettons en action cette foi. Réjouissons-nous pour cette part que le Seigneur nous donne et nous demande de mettre en mouvement. Mettons-nous en mouvement pour le Seigneur dans ce qu'il mettra devant nous et restons humbles devant Dieu, disponibles devant le Seigneur, réjouissons-nous des petites choses qu'il nous demandera d'accomplir, servons-le avec joie. Ésaïe 65, verset 18 nous dit « Réjouissez-vous plutôt et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie, nous dit le Seigneur. » J'aurai l'occasion une fois d'aller un peu plus en profondeur sur ce texte-là, parce que Dieu a des grands projets pour Jérusalem. Alléluia! On doit se réjouir pour ça, parce qu'un jour Jésus viendra et régnera sur Jérusalem et restaurera toutes choses. Il ne va pas laisser Jérusalem dans le péché, il ne va pas laisser Jérusalem dans l'idolâtrie, et de même, il ne va pas laisser les nations de la terre sous le pouvoir de Satan. Un jour, le diable sera lié. Un jour, le Seigneur va restaurer toutes choses. Et on peut déjà se réjouir pour ça, parce que nous sommes dans l'attente de ce temps-là. Et nous pouvons célébrer le Seigneur pour toutes ces bénédictions que Dieu a encore en réserve pour nous. Mais comme je le disais avant, pas en restant les bras croisés, mais en nous tenant disponibles pour 2019, pour cette nouvelle année, devant le Seigneur. Dieu connaît, hein, Dieu connaît nos temps difficiles, Dieu connaît nos défis, Dieu connaît nos maladies, hein, Dieu connaît ce par quoi on passe. Mais malgré tout ceci, malgré cette économie qui des fois nous met aussi au défi, hein, financièrement, on est dans des temps pas simples. Hein. Mais malgré tout ceci, moi je crois que le Seigneur va nous donner encore son esprit afin que sa volonté, et sa volonté seule puisse s'accomplir sur cette terre au travers de chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il multiplie encore les dons et les talents qu'il a mis en chacun d'entre vous, que vous puissiez encore le servir avec joie en vous tenant simplement disponible devant lui pour sa gloire. Amen.